NPR News.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, un jour aux États-Unis ce soir.
I've said it very simply, I'll say it once again. It's an old military adage, but we would rather send bullets.
Voilà, c'est Mike Johnson, le speaker à la Chambre des représentants avec cette phrase hier. Je l'ai dit très simplement et je le répète, c'est un vieil adage militaire, mais nous préférons envoyer des balles dans le conflit à l'étranger plutôt que d'envoyer nos propres garçons, nos troupes. Bonsoir Anne Desine.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et américaniste, vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Je vous salue aussi Léo Perria-Peignet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Un décryptage donc en deux temps ce soir pour comprendre à la fois ce qui subitement a fait virer les Républicains à la Chambre et comprendre aussi ce que cette décision permet de débloquer justement pour l'Ukraine et jusqu'à quel point ça va changer sur le terrain. Anne Desine, c'est vous qu'on attend d'abord sur le volet politique. 6 mois de refus et subitement voilà que le speaker Johnson aurait lu des rapports de la CIA et compris que c'était grave et qu'il fallait donc continuer à aider l'Ukraine. Ça semble un peu court, non ?
Alors, c'est un véritable alignement de planète. Il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que depuis janvier, un certain nombre d'entre nous espérions qu'un jour, le projet de loi serait voté. Mais en fait, il y a eu, commençons par cela, une certaine évolution de Trump. Il y a 15 jours, Mike Johnson était chez Trump en Floride et on s'est rendu compte dans les conférences de presse que Trump n'était plus si ouvertement opposé à l'aide à l'Ukraine. Il parlait de faire payer les Ukrainiens, de se payer sur les intérêts des avoirs saisis aux Russes, etc. Et donc, je pense que Mike Johnson est reparti avec l'idée que bon, Trump avait peut-être pris conscience que c'était dans son intérêt.
Il est reparti avec l'imprimature même, Anne Desine, en fait. Hein.
Voilà, exactement. Et que, oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on est parti. Ce n'était pas du tout gagné. C'est quand même quelqu'un que personne ne connaissait. C'est un élu de Louisiane, qui est quand même l'un des États les plus conservateurs. C'est un évangélique. Il l'a bien expliqué. S'il est speaker, c'est la volonté de Dieu. Il est trumpiste jusqu'au bout des doigts. Et il a participé au refus de certification. Donc, c'est cet homme-là qui est devenu leader par hasard, parce que les extrémistes ont refusé les modérés comme speaker. Et le centre a réussi à s'opposer au plus frénétique des Trumpistes, Jim Jordan. Et donc, cet homme se trouve propulsé speaker et il prend conscience qu'il ne peut plus faire n'importe quoi, qu'il a quand même quelque part une responsabilité pour gouverner, pour adopter des projets, pour sauver le budget, pour avoir un budget de défense, etc.
Il prend conscience, Anne Desine, et en même temps, on voit bien que parmi les Trumpistes purs et durs, on n'entend pas ce qu'on avait entendu lorsque le précédent a été quasiment destitué. On entend Marjorie Taylor Greene, la représentante en Géorgie, mais finalement pas les autres. Donc est-ce qu'il s'est passé aussi quelque chose au fond, dans le camp républicain, qui fait que les voix très très Trumpistes, les voix MAGA, comme on dit, sont finalement moins bruyantes là, dans cet instant-là, cette séquence-là, qu'elles l'ont été avant?
Oui, alors il y a cet aspect-là, mais il ne faut pas négliger les démocrates. Les démocrates ont rassuré Mike Johnson depuis 2 mois. Depuis 2 mois, ce sont des projets bipartisans pour le budget, pour la défense, pour la loi de surveillance qui vient d'être réadoptée et prolongée. Donc il y a ça, et il y a la prise de conscience des républicains encore un peu modérés, que 20 de leurs collègues ont démissionné parce qu'ils en ont assez. Certains n'ont même pas fini leur mandat jusqu'en novembre. Ils sont partis en claquant la porte. Et donc ces gens-là, on les écoute et ils disent, il y en a assez. Il y en a assez de ce chaos. On n'est pas là pour ça. On a été élus pour avancer, pour faire avancer les choses. Et donc, effectivement, le rapport de force s'est inversé.
Est-ce qu'on peut, dernière question, Anne Desine, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils sont suffisamment cyniques aussi pour se dire, aussi bien Johnson que Trump, d'ailleurs, que ça ne peut pas être de leur faute, ça ne doit pas être de leur faute si d'aventure l'Ukraine perdait la guerre ?
Alors, je pense que Trump s'est dit, si je redeviens président, c'est peut-être pas une bonne idée que l'Ukraine soit trop affaiblie, parce que dans ce cas, il est clair que Poutine continuera à avancer, et là, je porterai la responsabilité. Comme on sait que cet homme ne prend ses décisions qu'en considérant son intérêt personnel, je pense que ça a joué un rôle.
Anne Desine, je vous remercie beaucoup. Léo Perria-Peignet, si on regarde maintenant ce que ça veut dire, en fait, c'est 61 milliards qui sont finalement adoptés. On a entendu le Premier ministre polonais Donald Tusk dire « mieux vaut tard que trop tard ». Il y a beaucoup d'ironie là-dedans, mais est-ce que vous dites pareil, mieux vaut tard que trop tard ?
Disons que l'interruption de l'aide américaine, elle est arrivée un peu au pire moment. Elle est arrivée un peu au moment où les Européens n'avaient plus de stock et les flux industriels européens n'étaient pas encore suffisamment élevés pour prendre le relais, si vous voulez. Donc là, les 6 mois d'interruption ont fait beaucoup de mal aux forces ukrainiennes qui ont dû reculer, qui reculent encore. Et c'est pour ça que le président Zelensky a d'ailleurs dit qu'il fallait que l'aide arrive vite, voire très vite, à moins de voir des pertes insoutenables en matière territoriale comme en matière d'infrastructure.
Alors ça, c'est possible parce qu'il va y avoir le vote au Sénat, mais c'est dès demain que commencent les réunions au Sénat. Donc ça peut aller extrêmement vite. 14 milliards pour former l'armée, pour l'équipement militaire, 10 milliards pour l'assistance économique, 13 milliards pour les systèmes de défense, 11 milliards pour les opérations du Pentagone dans la région, missiles anti-chars, défense aérienne, matériel de cyberdéfense. C'est quand même un immense package. Est-ce qu'on dit quand même qu'il est de nature à bousculer la situation sur le terrain ou pas?
Oui, je pense que là, ça va permettre aux sous condition qu'il arrive vite, ça va permettre aux Ukrainiens de stabiliser la situation. Au sens où, de quoi a besoin l'Ukraine en ce moment? Elle a besoin de munitions pour sa défense antiaérienne. Pour le moment, les Patriotes et peut-être le Sempé français sont vides. Elle a besoin de munitions d'artillerie pour briser les assauts des Russes. Elle a besoin de matériel anti-char pour empêcher les blindés russes de s'approcher.
Ça veut dire quoi vite, Léopéria Peigné? Ça veut dire dans les semaines vraiment qui viennent, parce que on sait bien qu'il y a une offensive russe qui est sur le feu sans trop savoir à quel moment, au mois de mai, au mois de juin, peut-être une nouvelle grande ville, peut-être un Kharkiv. Ça veut dire quoi très vite?
Alors,
en fait,
je resterai prudent sur les possibilités des Russes à relancer d'autres attaques, sachant que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont sur une posture très offensive avec des pertes qui sont extrêmement lourdes. À moins d'une surprise, je serais quand même assez réservé. Néanmoins, les forces américaines ont des stocks en Europe via l'OTAN qui peuvent aller extrêmement rapidement sur le terrain ukrainien pour soulager l'armée ukrainienne. Et ça, c'est même pas une affaire de mois. À partir du moment où je pense que même en ce moment même, le Pentagone est en train de prendre des mesures pour que dès que ce sera livré, hop, on passe la frontière ukrainienne, si vous voulez.
Ce que vous dites, c'est que même si l'Ukraine est dans une position difficile en ce moment, s'il devait y avoir eu offensive, et surtout si la Russie avait vraiment les moyens de reprendre le dessus, elle l'aurait déjà repris le dessus?
Non, je ne serais pas aussi catégorique que ça. Je pense que la Russie essaye de toute manière de prendre le dessus, et ça fait déjà plusieurs mois, hein, avec Avdiivka et tout ce qui s'est passé autour de ça. Je pense que les Russes sont aussi assez surpris que le package soit passé à la Chambre, ce qui n'était pas forcément prévu, ouais. Et moi-même, j'y croyais pas forcément il y a de la semaine dernière. Donc là, je pense que les Russes, qui, de leur côté, ont aussi souffert. Hein. L'atout principal de l'armée russe, c'était les stocks soviétiques. Ces stocks-là, ils sont de plus en plus limités, parce qu'ils sont de plus en plus vidés, si vous voulez. Les véhicules qui restent dans les parcs sont des véhicules qui sont inexploitables. Donc, cette logique-là, elle va arriver au bout à un moment.
Zelensky dit stabiliser d'abord et reprend l'initiative ensuite. On entend bien le stabiliser d'abord, à quel point il faut non seulement se remettre en état en termes de munitions, d'obus, etc., mais surtout laisser souffler en fait le front ukrainien. C'est ça que ça veut dire?
Très clairement. Je pense que là, il va falloir déjà, oui, stabiliser le front, arrêter les Russes qui grignotent petit à petit, mais qui grignotent, en leur infligeant des pertes qui brisent en fait leur potentiel offensif de manière plus prégnante. Maintenant, reprendre une posture offensive, c'est pas... Enfin, on va voir ce qu'il y a dans le package. Mais ce qui leur manque, au-delà des munitions, c'est surtout du matériel du génie et anti-mine, pour espérer reprendre l'initiative. Ça me semble encore d'une autre temporalité, si vous voulez.
Dans le texte, dans ce qu'il dit, Mike Johnson, le speaker à la Chambre, il dit ceci. Il dit « L'objectif du soutien américain est de donner à l'Ukraine la possibilité de se défendre et de remporter la victoire sur la Fédération de Russie. » Les États-Unis, donc, officiellement, ont pour but la victoire de l'Ukraine sur la Fédération de Russie. Est-ce que c'est pas, dans la bouche en tout cas de ces gens-là, est-ce que c'est pas assez neuf, au fond, de le dire de manière aussi claire et aussi nette dans la bouche de ces républicains-là? Et qu'est-ce que ça dit, à votre avis, pour la suite?
Bon, c'est des déclarations politiques dont j'accorderai une valeur quand même extrêmement limitée. Mm-hmm. Je pense que si Trump ou d'autres changent d'avis la semaine prochaine, ces déclarations-là, elles seront nulles et non avenues. Mm-hmm. Donc je serai assez méfiant. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis vont peut-être jouer le jeu de Poutine, au sens où Poutine voulait jouer la guerre d'usure. Ils vont avoir la guerre d'usure, sauf que les Ukrainiens, avec le matériel nécessaire, pourront limiter leurs pertes, infliger des pertes lourdes aux Russes qui sont de plus en plus difficiles à remplacer, parce qu'on est un pays qui est aussi vieillissant, et notamment en termes de matériel. Mmh. Donc, à voir.
Les Russes sont des hommes, cela dit, les Ukrainiens, eux, manquent d'hommes. Et jusqu'à quel point cet équilibre-là, sur le front, sera toujours favorable aux Russes?
Ça, c'est une question extrêmement vaste et extrêmement complexe, donc je ne vais pas essayer d'y répondre ce soir. Mais je pense néanmoins qu'en l'état, donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, donner aux Ukrainiens des armes de qualité qui leur permettent de frapper plus loin, plus vite, avec le renseignement américain, c'est permettre aux Ukrainiens d'économiser des hommes. Mmh. Et c'est très clairement ce qu'eux-mêmes disent. Hein. Ils disent « Donnez-nous des obus, les obus européens sauvent des vies ». Les armes qu'on leur envoyait portent plus loin, sont plus précises, et c'est tout à fait reconnu par les Ukrainiens eux-mêmes.
Alors, donnez-nous des obus, et pas seulement, il y a 8 milliards de ce que j'ai vu dans ce package-là, qui vont servir notamment à continuer à payer les salaires et payer les retraites, c'est ce que dit le Guardian ce matin, le Guardian de Londres. Et ça dit quand même, ça parle de l'état de l'Ukraine, ça aussi, que cette aide-là doit aussi servir à payer les soldats et payer les retraites.
Disons qu'on est dans un pays dans lequel l'économie de guerre, c'est pas une formule. Vous avez, je crois, plus du tiers du budget de l'État qui est consacré à la guerre. Et à côté de ça, vous avez d'énormes problèmes de financement. Mais là, pour le coup, l'aide américaine, je dirais pas qu'elle est moins nécessaire, mais je dirais que là, l'Europe, l'Union européenne a plus de cartes à jouer. Et c'est là-dessus qu'elle joue. Quand vous voyez les financements, les pays européens et l'Union européenne, en tout, ont plus contribué en termes financiers que les États-Unis. Mais là où les Européens ont du mal, c'est à fournir de l'armement. Alors que de fournir des sommes pour les retraites, pour les salaires, c'est moins un problème.
Après, je suis frappé, Léo Perrapeigné, vous me direz si vous l'êtes aussi, dans le revirement américain, il y a les mots d'effondrement qui ont été prononcés. Il y a l'idée qu'un effondrement ukrainien est possible, aurait été possible sans l'aide américaine. Et je me demandais si désormais ce mot-là, cette idée d'effondrement américain, ukrainien, n'était plus tabou et que ça disait aussi des choses, en fait, d'envisager ça.
Ah oui, non, je pense que la situation ukrainienne avant le vote du package était peut-être la plus critique depuis le début de la guerre. Ça, c'est même pas une question. Ils n'avaient plus les moyens d'entretenir un rapport de feu correct, ils n'avaient plus les moyens de protéger leur ville contre les attaques aériennes. Donc on était à un moment où, si l'Ukraine continuait sur cette pente sans aide, sans réaction des Européens, il se serait passé des choses avant l'été.
Il se serait passé des choses avant l'été, mais là, l'idée d'un effondrement, on en parlait. Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'on n'osait pas prononcer jusqu'à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, on ose prononcer cette éventualité-là qui existe ?
Bon, dans les médias, peut-être, je pense qu'entre nous, chercheurs, dans notre petite communauté un peu endogame, ça a été assez envisagé assez vite. Je vous rappelle aussi qu'au début de la guerre, c'était une idée qui était envisagée quand même très souvent. Enfin, dès qu'il y avait une difficulté, vous aviez des réactions politiques, médiatiques, qui disaient tout de toute façon... Aider encore l'Ukraine, c'est jeter de l'eau dans un puits sans fond parce que les Ukrainiens vont s'effondrer. Ça fait 2 ans, bientôt et demi. Belle performance, quand même.
Alors, je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Franck Madvon qui vient de s'asseoir et qui interviendra tout à l'heure autour de ces questions-là, mais ne rien faire, et ce serait la dernière question, est-ce que ne pas apporter ces 60 milliards, c'est aussi mettre Poutine en position de ne pas dicter les termes de quelques règlements que ce soit, de toute façon, à un moment ?
On est dans une logique d'attrition. À un moment, soit l'Ukraine, soit les Russes n'auront plus le potentiel pour maintenir une guerre soutenable. Et à partir de là, l'un ou l'autre sera en position de force pour négocier. C'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Quoi qu'en disent certains politiques en France, c'est pas en allant voir les uns et les autres pour essayer de faire une consultation que ça marchera. Donc à partir de là, 60 milliards. Et après, on verra, une éventuelle reprise de l'approvisionnement. Ça veut dire que l'Ukraine a de nouveau les cartes en main pour contraindre la Russie à négocier. Ça ne sera pas tout de suite, parce que la Russie a encore du potentiel. Mais de notre côté, l'Europe monte en gamme. Les Allemands veulent produire 1 million d'obus d'ici 2030. La France voudrait atteindre péniblement 100 000 d'ici 2025. Bon, je pense aussi que l'Europe, de ce point de vue-là, est quand même plus forte en 2024 qu'en 2022.
Ben écoutez, en attendant, on n'est qu'en 2024 et on verra la suite. Puis on écoutera Franck surtout tout à l'heure. Léo Perrapeigné, vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité de l'IFRI. Et je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous.